Ce matin, j'aimerais partager à partir d'un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 18. Un Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1. Dès que David eut achevé de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David, il ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il y portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne partout où l'envoyait Saül et tout lui réussissait. Saül le mit à la tête des hommes de guerre et il plut à tout le peuple, même aux gens de la cour de Saül. Au moment où les gens revenaient de campagne, lors du retour de David, après qu'il eut abattu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes qui jouaient de la musique se répondaient les unes aux autres. Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül fut très fâché. Cela lui déplut. Il dit, on donne les dizaines de milliers à David et à moi, on me donne les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance. Le lendemain, un mauvais souffle s'empara de Saül. Il se mit à faire le prophète au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül brandit sa lance en disant « Je vais clouer David au mur ». Mais David l'évita par deux fois. Saül eut peur de David parce que le Seigneur était avec David et qu'il s'était éloigné de Saül. Saül éloigna David et le fit chef de 1 000 hommes. David partait en campagne et revenait devant la troupe. David réussissait dans toutes ses entreprises et le Seigneur était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül était effrayé par lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce que c'était lui qui partait en campagne et revenait devant eux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce récit nous présente trois personnages, trois hommes qui ont des façons différentes d'appréhender le service de Dieu. Avant d'étudier la façon de chacun d'entre eux, je vous propose de resituer ces événements dans le contexte, dans l'histoire d'Israël. Saül, c'est le premier des rois d'Israël. Les Israélites ont demandé à Samuel, qui était juge et prophète du Seigneur, un roi pour faire comme les autres nations. Et malgré sa désapprobation, Dieu leur accorde ce roi en la personne de Saül. Et Saül, c'est l'image de ce que le peuple attend. C'est un homme grand, fort, le plus beau en Israël, il nous est dit. Samuel, loin, et Dieu lui accorde son esprit. Mais rapidement, Saül s'écarte des directions données par Dieu. Tout d'abord, il perd patience, panique et prend des initiatives malheureuses en jouant le rôle de sacrificateur alors que ce n'était pas sa place. Il fait ça au lieu d'obéir à Dieu qui lui avait demandé d'attendre l'arrivée du prophète. Puis ensuite, on le voit faire des compromissions, manquer de radicalité avec l'ordre du Seigneur, conduit par un désir matériel. Saül est roi en Israël, mais un roi en difficulté. Il a un fils, Jonathan. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est que c'est un bon guerrier et un homme courageux. La Bible nous raconte quelques actions d'éclat de sa part. Il vit, semble-t-il, dans le respect de Dieu qu'il consulte avant d'agir. Suite aux écarts du roi Saül, lassé, Dieu demande à Samuel d'oindre un nouveau roi en la personne de David. Et à l'opposé de Saül, David, ce n'est pas une force de la nature. Et en plus de ça, c'est un jeune berger, profession peu reluisante à l'époque. Malgré ces événements, malgré David qui entre en scène, qui est oint, Saül reste roi. Nous avons donc une situation avec deux rois oints, un en exercice et un qui attend son heure. Les deux hommes vont se rencontrer. Tourmenté par un esprit mauvais, Saül recherche un musicien qui pourra l'apaiser pendant ses crises. Et c'est ainsi que David rentre à son service et il fera l'aller-retour entre ses moutons et le palais royal. Et c'est au cours de cette période que David entend parler d'un certain Goliath. Peut-être que vous aussi, vous en avez entendu parler. L'épisode est connu au-delà des cercles des églises. Sûr de la présence de Dieu à ses côtés, David combattra le géant et le tuera d'une seule pierre. Après cet exploit, Saül, qui semble-t-il n'a pas de souvenir de David qui venait chanter pour lui, en tout cas le texte est un peu silencieux à ce sujet, Saül veut se faire présenter le héros et c'est justement là qu'intervient notre passage. Nous avons lu après que Saül ait rencontré le héros qui a tué Goliath. Nous l'avons dit, ce récit détaille les attitudes de trois hommes. David, Jonathan et Saül. Ils ont un point commun, tous les trois sont actifs dans l'armée. On peut dire qu'ils sont tous les trois des leaders du peuple au service de Dieu pour le bien de son peuple. Mais leurs attitudes sont très différentes les unes des autres. Celle de Saül est marquée par la jalousie. Vous avez remarqué quand nous avons lu le texte. Il est le roi d'Israël, loin de l'Éternel. Le peuple devrait reconnaître sa responsabilité dans la victoire. Mais dans les louanges du peuple, il n'est qu'un des deux co-responsables du succès, associé à un jeune guerrier. Plutôt que de se réjouir d'avoir à son service un champion tel que David, il se sent menacé. Du coup, Saül déploie son énergie pour abaisser David. Il lui confie des missions militaires de plus en plus difficiles et même des missions suicides, comme on le voit dans la suite du récit, dans le but qu'il meure au combat et qu'il soit débarrassé de ce gêneur. Mais c'est mal calculé parce que David rencontre le succès à chaque fois. Saül choisit la mauvaise voie. Il refuse de voir l'évidence. Dieu est avec David. Tout le contraire de son père, Jonathan a une réaction opposée. Lui, il est complètement enthousiaste concernant David. La Bible parle même d'un très grand amour. Certains y voient l'évocation d'un amour homosexuel entre les deux hommes. Sans faire le sujet de cette prédication, j'aimerais quand même faire une parenthèse sur ce sujet qui est actuel. La Bible n'indique pas que la relation entre Jonathan et David soit de nature amoureuse et sexuelle. Y voir une telle relation, c'est lire entre les lignes ce qui n'est pas écrit. Et la Bible n'a pas l'habitude de jeter un voile pudique ni sur le sexe, ni sur le péché. Par exemple, dans le même livre de Samuel, on nous rapporte le viol incestueux d'une fille du roi David par un de ses frères. Épisode pas très amusant. Et concernant le péché, le même livre de Samuel ne nous cache pas le péché grave que David commettra plus tard. Si le roi David avait eu une relation homosexuelle, je suis persuadé que la Bible l'aurait condamné plutôt que de l'évoquer à demi-mot. En fait, une telle interprétation part du présupposé que deux hommes seraient incapables d'avoir une relation forte sans qu'y apparaisse la sexualité. Et rien dans le texte biblique n'encourage une telle interprétation. Mais refermons cette parenthèse. Donc Jonathan aime David et entreprend de faire tout son possible pour faciliter sa mission. Il l'équipe de ses propres armes, il lui donne son manteau, ce qui est un grand honneur. Ce qui est remarquable, c'est que, au contraire de Saül, il ne prend pas ombrage du succès de David. Et pourtant, il aurait eu raison, autant de raisons de se sentir menacé, sinon plus. En effet, Saül est déjà roi, Jonathan son fils, est celui qui est appelé à lui succéder. Au moment de monter sur le trône, David, armé de sa popularité, pourra alors être un adversaire redoutable. Jonathan préfère voir en lui un allié et un ami. Le troisième acteur de l'histoire, c'est David. C'est lui le centre de l'histoire, mais c'est lui dont l'auteur parle le moins, en tout cas dans ce que nous avons lu. Il est présenté succinctement comme un bon serviteur. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il effectue les missions qu'on lui confie sans chercher à outrepasser son rôle. Et pourtant, il sait qu'il est destiné à régner sur Israël. C'est le seul des trois à être au courant de l'onction faite par Samuel. Mais il reste patiemment à attendre que le temps de Dieu s'accomplisse et il refuse de lever la main contre Saül que Dieu a placé là. Et l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est lui la raison de son succès, l'Esprit. Et d'ailleurs, intéressant de relever que la persécution dont il est l'objet de la part de Saül est le moteur même de son succès. Plus Saül lui impose des missions difficiles, plus les succès de David sont retentissants. Les attitudes de ces trois personnages, que pouvons-nous tirer qui nous concerne. Si mes informations sont exactes, il n'y a parmi nous ni reine, ni roi, ni futur monarque. En quoi pouvons-nous nous identifier à ces personnages importants? Je vous propose de prendre du recul et pour un temps de mettre de côté ce qu'on sait sur David, sur ce qu'il va devenir. Oublions que c'est le futur roi, oublions que c'est celui qui sera appelé le roi selon le cœur de Dieu, par opposition à Saül, et le roi répondant aux critères humains. Oublions qu'il est la figure du Christ dont il est l'ascendant. Laissons tout ça un temps de côté. Tentons de transposer cette situation dans notre quotidien, l'Église aujourd'hui. De pareilles situations se produisent-elles? Sommes-nous, par exemple, jamais énervés de voir à quel point les autres s'y prennent mal, que nous faisons ou ferions mieux qu'eux? N'arrive-t-il jamais que nous nous sentions menacés parce que une sœur ou un frère exerce des dons similaires aux nôtres ou pire, mieux que les nôtres? N'avons-nous jamais peur qu'on prenne notre place, et que nous soyons mis de côté. Comment vivre ces situations de concurrence dans l'Église? Je vous livre quelques pistes et la première, ce serait d'accepter sa place. La Bible nous enseigne, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, que c'est Christ qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Dieu attribue à ses disciples des dons. Des dons qui, reconnus par l'Église, confèrent une fonction dans le corps et le fait pour l'édification de ce corps. Ainsi, c'est Dieu qui donne à chacun sa place. Je lisais récemment un livre qui abordait la question de l'autorité. Les auteurs faisaient remarquer que lorsque Paul commande de se soumettre aux autorités, nous connaissons ce passage, il le fait en parlant de l'empereur romain. La charge d'empereur est alors une charge héréditaire. Et si on peut se trouver avec de bons chefs d'État, on peut aussi se retrouver avec quelqu'un de mauvais, simplement placé là parce qu'il est né sous les bons auspices saints. Si le chrétien est invité à se soumettre à l'autorité, ce n'est pas parce qu'elle est bonne ou parce qu'elle a démontré une compétence particulière. C'est parce que c'est Dieu qui a donné l'autorité. Et entre parenthèses, en donnant l'autorité, il donne une grande responsabilité et celui qui en est dépositaire devra rendre des comptes de façon plus sévère. Mais sortant de la seule question de l'autorité, l'Église est décrite comme un corps, où chacun a sa place. Cette histoire de place, ça me rappelle ce que m'a dit une psychologue que je connais. Il s'agit de prendre sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Dans notre récit, Saül se sent menacé alors qu'il est roi. David est sous ses ordres, ce pourrait être un atout dans sa main. Quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Il se plaint. Il ne lui manque plus que la royauté, mais c'est énorme. Lui, il a la royauté, il est roi. Mais il veut plus que son rôle. Plus que le rôle de du roi qui pilote son peuple et règne sur son peuple. Jonathan, lui, il n'a pas la royauté. Tout le pousse à être en compétition avec David. Il est bon militaire, plein de foi en Dieu, fils du roi. Il pourrait prétendre à ce rôle de chef de milliers, mais il accepte de jouer un tout autre rôle, celui du meilleur ami. Et le reste du livre de Samuel nous montre que c'est quelque chose qu'il fera excellemment. Quant à David, il accepte de rester sous les ordres du roi alors qu'il a des signes forts qu'il serait meilleur dans ce rôle. Il a même été loin, mais il attend jusqu'au jour où il aura la royauté. Une deuxième chose qui nous est demandée, et c'est Jésus qui nous le demande, c'est de ne pas oublier qui nous servons. Comme à Pierre, il nous dit « Que t'importent les autres ? Toi, dis-moi. C'est moi que tu sers, c'est pour l'établissement de mon royaume que tu œuvres. S'il me plaît de confier telle ou telle place à ton frère, qu'est-ce que ça change ? Ne l'oublions pas. C'est à Dieu seul que nous rendons des comptes. Dieu qui nous a équipés, chacun avec des dons différents, pour effectuer des services différents. Vous vous souvenez peut-être de cette parabole dite des talents. Jésus compare les dons et capacités dont chacun d'entre nous dispose à un capital à investir. Un homme partit en voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à l'autre 2 et un troisième 1 lingot, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Très bien, » lui dit son maître, « tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. Pourquoi t'en confierais de plus importante ? Viens, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 lingots et qui en avait gagné 2 autres se présenta aussi. « Très bien, » lui dit son maître, « tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot et qui ne l'avait pas fait fructifier vint à son tour. Son maître lui dit : « Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a 10. » L'important, ce ne sont pas nos compétences, ni même ce que nous parvenons à accomplir. Encore moins que nous fassions plus et mieux que les autres. Non, ce qui compte, c'est de ne pas laisser dormir ses dons, ses compétences, telles quelles qu'elles soient, et de les mettre au service de Dieu. Mais l'enseignement de Jésus est-il un simple commandement qui dirait « mêlez-vous de vos affaires » se résume-t-il à la formule « chacun pour soi et Dieu pour tous » ? Non. Travailler ensemble pour Dieu va plus loin que ça. Aux disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand d'entre eux, Jésus les reprend ainsi. Il appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Tel est l'enseignement de Jésus. L'enfant, c'est l'être dépendant, celui qui n'est rien sans les autres. Voilà ce que Jésus nous demande, d'oublier nos prétentions et de redevenir ainsi. Un enfant au milieu d'adultes a pleinement conscience de ses limites, de ce qu'il ne peut atteindre, de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il ne sait pas faire. Il est conscient de ses limites et de ce qu'il doit aux autres. Il est conscient de combien. Comme ça, ça paraît peu réjouissant, et pourtant, observez les enfants. N'ont-ils pas l'air réjouis ? Ils sont heureux d'être entourés par des adultes, par d'autres qui peuvent les dépanner quand ils sont bloqués, qui peuvent les aider quand ils rencontrent leurs limites. Je vous avais invité pour notre réflexion à oublier que David est la figure du Christ à venir. Peut-être le moment de nous en souvenir. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un peu comme David est venu dans la cour royale, révélant le cœur de chacun, Christ est venu parmi nous et nous a montré le modèle à suivre. Il a accepté de se dépouiller de ce qui lui était dû pour devenir serviteur. Et ce superbe cantique qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens nous le rappelle. Si Jésus est notre modèle, nous devons, nous aussi, ne rien faire par esprit de rivalité, mais par humilité. Considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Non pas regarder nos propres qualités, mais celles des autres. Jésus nous appelle à le suivre. Toi, suis-moi. Tel que nous sommes, avec nos capacités, mettons-nous à son service sans nous demander quelle sera notre place dans l'organigramme de l'Église ou dans la hiérarchie des chrétiens. Voyons l'Église comme ce qu'elle est, un corps, organisé par le Seigneur. Plutôt que de voir nos frères et sœurs comme des concurrents, voyons-les comme ce qu'ils sont, des alliés, dans l'accomplissement d'un but commun, des aides, des compléments sans qui nous n'arriverions pas à grand-chose. Examinons-nous. Choisissons. Quel modèle voulons-nous suivre ? Saül ou Jonathan ?